Mot-clé 13. Fonction générale du nom et de la représentation dans mes espaces de représentation, de pensée et de projection. Séquence 1. Le nom comme séquence miroir et miroir inversé. Pourquoi je reprends là la question du nom et pour qu'elle ait du sens dans mon esprit et peut-être aussi pour ceux qui vont écouter ces enregistrements. C'est pour la raison que je ne le termine plus là comme une sorte d'action fondamentale et comme un cadre qui puisse représenter un cadre pour et nos représentations et la politique implicite de nos lectures mentales et de nos lectures images. Il est difficile de lire les images de ce qu'on pense et à quoi on pense dans l'esprit, mais c'est pourtant un exercice vraiment intéressant. Et donc, je reprends les choses parce que je ne veux pas seulement considérer que le nom compact est implicite dans son carré, dans son cadre des sensations, dans le domaine des perceptions et des sensations, de façon implicite, ni qu'il implicite et assemble les éléments, ces éléments en mode de perception-image, permettant qu'ils nous parviennent et que nous les ayons par nos canaux sensoriels. Bien que tout cela, je pense, est déjà pas mal détaillé et intéressant à comprendre et à poursuivre. Voir ni comment seulement le nom, et pour autant que je puisse dire seulement, il implicite la mise en scène de réception de ces formes d'images et de compréhension, pas seulement dans ce qu'on comprend et comment on le comprend, mais j'implique beaucoup plus les bases et les racines des façons de concevoir, c'est-à-dire les formes de conception. Et c'est cela encore que je voudrais considérer, bien qu'ayant déjà travaillé sur cela, je n'en dirai que peu ici, car cela se ferait quand même un peu beaucoup pour cette question telle qu'elle se présente sous le cadre du nom. Le cadre de ce fait s'impose alors comme précédent, implicitant, impliquant nos lectures d'images et nos prises en compte et considération de ces lectures et cette prise en compte des images, images mentales et images sensorielles. Le cadre s'impose comme notion de perception, d'image et de pensée, et dans un couplage et tout assemblé, mais aussi de sensations, comme je l'ai déjà évoqué, et le tout éventuellement aussi assemblé et comme compacté ou présenté dans une sorte d'ensemble. Et le cadre attend l'exercice de nos fonctions et de nos compétences. Donc le nom considéré comme un cadre, comme fonction, et fonction, je dirais, adverse. D'un côté, mettons les perceptions, et d'un autre côté, les sensations. D'un côté, les images et la pensée ou ce que nous considérons comme tel, et d'un autre côté, les perceptions et les sensations dans leur réalisation et leur domaine. Et comme inverse et comme alterne ou opposé l'une de l'autre, implicite, et cela donc dans cette forme de rapport de face à face d'implicite et d'alternance ou d'alterne. Donc implicite les fonctionnements mentaux en mode de présence et à l'intérieur de leur fonction de réalité. J'ai pensé qu'il était précieux d'indiquer que le nom, dans ce cadrage qu'il me permet de réaliser implicitement dans l'esprit, m'a permis de prendre en compte la capacité de concevoir, et au travers de celle-ci, une nécessité qui est une nécessité implicite et formelle, et une nécessité de formaliser nos manières de comprendre, de considérer et de prendre en compte. Formalisation totalement implicite qui permet de concevoir de la forme et du nom, dirais-je, en tant que forme et signification potentielle. Et là se posent des questions, dont au moins deux, c'est-à-dire d'une part, comment cela se font les choses, et d'autre part, pourquoi et à quoi cela sert. Alors, je ne peux pas, et je ne pense pas qu'on puisse répondre que par une raison de type déclaratif, du genre c'est pour ceci, à cause de cela, et pour c'est pour cela que, etc., etc. Et non pas donc par une raison qui serait seulement formelle et de type ainsi explicative et matérielle, et le tout à la fois. Et c'est pour éviter ce genre de raison-là, assez courte et de vue étroite, y compris en injection de signification, que je vais essayer de développer les choses un tout petit peu autrement. Autrement dit, il s'agit dans une question qui est aussi large et importante, de la forme et du nom, que de la forme et du nom se forment dans notre esprit et dans ses fonctionnements, et trouvent et puissent trouver en quelque sorte du répondant ou des répondants psychocorporels. Comme si il nous était important et demander de créer de la forme qui soit à la fois perceptive et sensorielle et implicitement comme gustative, je dirais, également de la parole. Je pense qu'on peut déduire à partir de là pas mal de choses, tant sur les formes mentales que les images implicites du corps et des sensations en mode image, en mode verbe potentiel, mais aussi en mode de fonctionnement sensoriel implicite. Mot-clé 13, fonction générale du nom et de la représentation dans mes espaces de représentation, de pensée et de projection. Séquence 2, le mode miroir, comme toujours déjà là, au sens de nos états de conscience et nos capacités de comprendre, dirais-je. Et au fur et à mesure que je parle, que je commente, que je forme ma pensée, je la modélise, ainsi que mes perceptions et mes sensations, pour enregistrer ce que j'ai dit très et ce que je veux vous dire et vous transmettre. J'essaye de ne pas masquer mes modelages, mes reprises et les espèces d'accrochages qui se font dans le fonctionnement et la décantation des images et des modelages et des sensations, et donc qui passent par le modelage des perceptions et des sensations pour émettre et arriver à communiquer ce que je veux dire et ce que je veux penser. Je pense qu'il faut considérer le mode miroir en ce sens comme toujours déjà là et de différentes manières, et comme vibrant dans ces espaces et dans les espaces internes, et construisant un miroir dans l'esprit, dans les fonctions de son esprit et à l'intérieur de ses fonctionnements. Et cela en mode de perception silencieuse, latente, muette, comme une sorte de compagnonnage et plus ou moins de double de soin, et induisant et construisant des schémas de fonctionnement et sur son fonctionnement, et comme aussi comme les photographiant au fur et à mesure de leur réalisation. On peut en prendre la notion en appelant ça des photogrammes ou des grands photogrammes. Et c'est ce cadre en mode de perception et de sensation de pensée dans son ensemble que je prends comme modèle. Et comme modèle de nécessité de sensation et de pensée qui demande en quelque sorte de satisfaire à une forme de résonance dans l'esprit. Et cette résonance est aussi sensorielle et il faut pouvoir s'en rendre compte. C'est-à-dire comme appelant de la notion ou du concept, c'est-à-dire de l'expression en forme de nom, de paroles et d'images dans l'esprit. Ce cadrage que représente le nom dans l'étendue de sa capacité peut être considéré comme représentant du corps, de la perception et de la pensée. Toute chose qui représente comme à la fois son endroit et l'envers de cet endroit. Et je voudrais commenter seulement ceci, que quand on parle, on ne sait pas a priori ce qu'on va dire ni ce qu'on va communiquer. Et la chose se met en route dans la fonction et l'intérieur du canal de ses fonctionnements, mais pas sans une mise en jeu et un retour de type sensoriel, mettant en jeu une partie étendue à concevoir de ses résonances et de ses assises sensorielles. Donc j'en reviens à cette question de l'envers ou du revers, et donc cet endroit et cet envers au niveau des perceptions et des rapports aux perceptions comme étant ce qu'on peut appeler les sensations. Donc, ou l'avers comme les pièces de monnaie, soit ce qu'on appelle face, et l'autre côté étant le revers. Mais ce que j'appellerais plus volontiers concernant le revers, qui est l'autre face. L'autre face dont nous n'avons pas donc la notion et la notion directe. Donc l'un étant la sensation, je dirais, et l'autre la conception en tant que sensation, soit le revers de cette chose et comme d'une certaine façon son retournement et son message comme sous forme inversée. On peut encore traiter et considérer l'ensemble de ce système comme des fonctions intervenant au sein des fonctionnements et comme en échange interne et externe, et réalisant des synthèses, construisant des structures et des sensations de type latente. Et considérer en mode plan l'ensemble du résultat, c'est-à-dire ses formations et préconditions en tant que préalable, pas seulement sur un plan conceptuel, mais sur un plan formateur et je dirais quasiment plastique. Étudier comment cette fonction et nécessité de préalable dans son modèle, sa modélisation, sa mise en forme se réalise et s'accomplit. Elle est réalisée et elle est remplie par des formes particulières de réalisation corporelle et de leur complément en forme mentale. Et souvent en privation de conscience, en tout cas de conscience immédiate de leur mode de réalisation ou de nécessité et leur type d'assemblage. Par exemple, dans les phases d'émission qui nécessitent des formes d'expression, de plasticité propre et leur conception en mode sensation, dans le temps, dans l'usinage du temps, dans son emploi et du temps en tant que phénomène mental et en tant que capacité, formation de capacité des conceptions de réalisation. C'est ce dont j'ai essayé de donner à ceux qui m'écouteront une idée dans la manière dont j'ai commenté au début ma façon de penser et d'émettre ce que je voulais transmettre et que je voulais en quelque sorte pour cela le modeler et laisser passer ce qui peut avoir l'air d'être comme des hésitations. Et cela dans l'attitude et les formes de fixation temporelle qui sont aussi des formes de fixation corporelle par sensation et image du corps. Et quand on dit quelque chose, il faut avoir la notion sans cesse et toujours qu'on est en train de le modeler et de le ciseler. Et cela dans différentes formes et modalités, donc l'image du corps, telles qu'elles sont des images impliquant de les concevoir, mais aussi fondamentalement de les recevoir pour les percevoir, et qui représentent des capacités, des compétences qu'il est difficile de nommer, mais qu'il faut pouvoir reconnaître, qui sont des compétences implicites de forme et de conception. Nécessaires dans leur assemblage avant retournement et avant réémission, comme vers le monde extérieur et comme en communication. Et donc aussi des qualités et des capacités de compétences que je qualifierais de compétences et de veille, ou du moins en latence. Mot-clé 13, fonction générale du nom et de la représentation. Dans mes espaces de représentation, de pensée et de projection. On peut considérer plusieurs titres ou éléments sous ce titre que j'ai annoncé et qui implique, je dirais, mes canaux. C'est une sorte de chapeau qui prête à un menu et comme un déroulement de ce dernier, comme nous apprend à le parler ou à la formaliser l'informatique. Et là, se trouvent inclus des formes qui sont livrées, révélées par le fonctionnement du cerveau dans la mise en forme, la mise en acte et la mise en image. Et de la perception peut naître aussi les pensées et la conscience du sens. On a là inclus des formes qui nous sont livrées par le fonctionnement du cerveau dans son fonctionnement actif. Je vais les énumérer comme cette espèce de liste, donc de déroulement, nos pensées, ce qui vient et comment elles interviennent, où sont provoquées, les rouleaux de conscience, quelles formes, et qui font qu'elles interviennent en parallèle à notre niveau, notre ligne de conscience et de présence, notre ligne de conscience officielle est telle qu'elle se branche et elle est branchée dans le suivi de conscience et de fonctionnement en rapport avec une circonstance ou un contexte qui représente un grand photogramme image, voire d'un type d'événement et de circonstance. Ces événements peuvent être de différents modes et domaines. Là aussi, ce pourrait être intéressant à détailler comment quelque chose intervient dans notre esprit en tant qu'événement ou fabrique d'événements. Ce rouleau forme une sorte d'émetteur d'images et de conscience de type particulier dans nos formes de conscience, image, perception, occupation, préoccupation et conscience sur le court terme ou le moyen terme. La conscience est aussi émettrice de scénarios et d'alternatives qui sont la base de l'encodage image et des déroulements dans l'esprit. Et là aussi se forment au travers des scénarios, des modèles d'utilisation de l'espace-temps dans l'esprit. La chose est importante et intéressante à développer, et je le ferai sans doute ailleurs et autrement. Ces scénarios ne sont pas purs, ne sont pas bruts en soi, mais sont comme dotés de formes, d'enveloppes, de conditionnements, de sensibilité, en mode de message, en mode de tri aussi, de présence ou de décision. Leur délivrance corporelle et psychocorporelle, assemblée, pour le dire ainsi, ainsi que leur réception et mode de réception, sont particuliers, mais aussi leur gestion, je dirais, sur le long cours. Et leur engramme comme répertoire d'expérience et de gestion et de ses antécédents ou de ses précédents dans les types d'événements, de perceptions ou de sensations que la personne va gérer sur le long cours, mais aussi sur le court terme ou dans l'actualisation de ses propres gestions. Et donc, comme leur intervention de ces engrammes en mode référence, donc et histoire, dans les données d'actualisation des données de la vie présente, ce que je viens à peu près d'évoquer, et ce mode d'actualisation est intéressant car, au lieu d'être régrédient, il y a là comme un mouvement général qui se fait vers l'avant qui est progrédient. Et c'est arrivé à ce niveau de décantation dans son ensemble de décomposition de données de type qu'on peut considérer comme unité image et analytique, qu'on peut concevoir des formes de formalisation qui sont assembleuses et assemblistes ou ensemblistes, dont une donnée primaire en type de fonctionnement mental brut et conditionnant, qu'on peut concevoir comme une sorte de forme de molécules ou de données d'ensemble de l'esprit, de son esprit en soi. Et par ailleurs, une donnée qu'on peut ne pas pouvoir aborder directement comme telle, mais qu'on doit aborder non pas dans sa qualité, je dirais, de fournisseur d'images, voire de compréhension, mais en tant que qualia, c'est-à-dire comme des quantités tournées vers la qualité, et notamment la qualité et la capacité de perception et de sensation. Et ce qui demande à ce qu'on constitue fondamentalement de la forme ou des formes, et c'est justement la nécessité de constituer des qualia ou de l'existence, de la consistance de la qualité de qualia ou de formation qui sont des formes qualité pour le corps, mais aussi l'esprit. À ce titre, les mots peuvent être considérés comme des en-soi de pensée qui attendent leur qualification personnelle image, en mode de personnalisation, de qualité sensorielle propre du récepteur ou de l'émetteur, ou donc qualité sensorielle ou qualificatif de sensorialité. Et cela beaucoup plus que l'idée ou l'excitation des idées émises et de leur enfilage. Ce qui inverse donc les données du langage, à bien considérer, au sens courant de l'imagination qu'on a et qui partirait des contenus et qui serait comme laissé à soi seul et simplement émis, poursuivi et commenté comme en forme de discussion ou de dispute psychologique. Et surtout, si on tient compte des nécessités de gestion des fonctions et des fonctionnements du corps, comme je viens d'essayer de l'évoquer. Mot-clé 13, fonction générale du nom et de la représentation dans mes espaces de représentation, de pensée, de projection. Séquence 4. Considérer les réactions et relations des personnes en mode quantité ou qualia, du fonctionnement mental. Sur ce plan aux fenêtres que je présente là, on peut considérer dans cette séquence les réactions, rapports et relations avec les contenus des messages, les types de contenus et en forme de quantité ou de kalia et de quantité émotionnelle, peut-on dire, et dans une sorte de double affectation et de prise en compte. Du côté où l'on se trouve soi-même en mode perception, émotion et sensation corporelle, comme au travers de ces réceptions. D'une part, comme réaction propre personnelle témoignant de l'esprit de la personne, c'est-à-dire de la sienne et de son ou de ses modes de fonctionnement sans qu'il puisse être comprimé, et ce qu'elle peut tourner par ailleurs vers l'extérieur et exprimer et communiquer en mode de transmission et espace externe, comme réaction, mais comme on se tournerait vers le dehors pour prendre quelqu'un à témoin ou pour interroger, mais de quoi s'agit-il donc? Ce que je viens de dire comprend et conçoit en soi une sorte de carré, dirais-je, du fonctionnement mental, de l'incompressible, du dur en soi, et comme une sorte, je dirais, d'espace quadratique qui est comme un espace fermé sur lui-même et qui se livre comme tel. On peut avoir cette vision d'être comme enfermé dans un espace fermé, et on peut avoir cette vision au-delà de l'imagination de type fantasme et fantasmatique, comme suspendue dans l'esprit et liée au fonctionnement, je dirais, quadratique de celui-ci, qui nous établit comme à l'intérieur d'états et de fonctions de conscience et de fonctionnement propre, et avec des nécessités et ses formes de type de conscience personnelle et de personnalisation. C'est ce carré comme tel que je considère dans son impératif, dans sa nécessité, sous l'aspect ou le mandat de la forme et de la formalisation pour la personne et en quoi elle est aidée, par exemple, ou en quoi elle demande à pouvoir l'être pour en tenir compte, pour tenir compte de ses fonctionnements. Et en mode d'ajustement mental plus ou moins nécessaire, ou comme à des rendez-vous, je dirais, de type périodique. Là encore, il y a des enjeux de conceptualisation de l'être à l'espace en tant que temps et temporalité. Et pas seulement sur le plan de la qualité et de la dimension des seules réalisations du langage verbal, tout en lui donnant une place et une dimension importante au sein du fonctionnement et des capacités du fonctionnement de l'esprit d'une personne, et je dirais en mode de responsabilité d'elle, mais aussi de ses compétences corporelles. Quand j'émets un titre important et aussi long que celui que j'ai émis pour cette séquence, et que je l'émets, je le communique comme rouleau, comme message de ma pensée, en mode de thème et de considération image, il faut considérer ce qui m'est venu à l'idée, à l'image, à l'esprit, et que j'ai éprouvé le besoin de préciser sous l'égide du nom, ou je dirais du carré du nom, de l'idée que je me fais, que je m'en fais dans l'esprit et comme représentant ses fonctions. C'est-à-dire comme une sorte de cadre et de pilier, comme une forme d'architecture mentale solide et implicite, ce que je prends comme vraisemblant ou vraisemblable. Et en quoi donc ce dernier, cette espèce d'image, de représentation, comment donc cette architecture est génératrice elle-même de condition et d'image, comme en interne et en externe, et de façon séparatrice. Et donc une image en forme de vision architecturale, d'architecture, comme si cela était une vision de perception susceptible d'être réelle, ce que j'appellerais une vision en mode de schéma mental, et à quoi pour ma part j'accorde beaucoup d'importance, et qui représente aussi une architecture et une structure de perception à considérer comme en soi, et qui déjà informe qu'une telle chose peut exister. La perception, vision, évocation, en l'occurrence, du nom, est comme une image d'un arc sous lequel il faut, ou d'un arche sous lequel il faut nécessairement passer. J'éprouve donc le besoin et le désir de décrire cette arcature, cadre et cadran et cadrage, et le processus et enjeu que la chose commande à l'esprit, mais aussi implicitement aux perceptions et au corps. Elle représente comme une vision à distance et une nécessité de voir de loin et de percevoir de loin. C'est, je pense, là une notion intéressante, mais aussi un mode de fixation temporelle image de temps et de durée dans les impressions et dans les sensations et au sein des messages de perception intervenant ou qui peuvent intervenir dans notre esprit. La notion d'imprégnation est aussi importante à considérer, mais elle n'abolit pas la notion de considérer celle de distance. Et je pense que ce processus de fixation image dans son ensemble existe dans le temps, dans son cours et dans son processus, tel un grand fleuve, et qu'il faut un grand fleuve image, et qu'il faut en quelque sorte le faire parler et pouvoir le faire parler. Mais alors, cela révèle et fait apparaître comment le nom dans l'esprit, avec ses résonances et comme fonction propre, représente la parole de la parole au sein de ses fonctionnements, et sans qu'on s'en doute vraiment bien, et implique ses modes d'intervention en mode perception, mais aussi sensation et image. La parole existant comme fonction, mais aussi comme condition dans notre esprit, comme structure et forme également, dans ses en soi et ses fonctionnements, et pas simplement comme un moyen conversationnel ou comme des moyens intellectuels. Et là, et dans le profilé, dans le défilé de ces perspectives et de ceux ou ces fonctionnements, on découvre des structures adaptées ou liées à l'esprit, ses fonctionnements et ses modes de fonctionnement. Donc elle mérite d'être prise en compte, cette image, cette idée, fonction image, prise en compte et décrite, cette image et cette structure, et donc comment elle se présente, comme des tracés, et comme je l'ai déjà évoqué, sous des formes de schémas de l'esprit ou des formes de vision mentale, des besoins aussi de présentation et de représentation qui, d'une certaine façon, précède radicalement le sens. La lecture dans la dimension de l'esprit, dans la tenue et l'observance de ces spécificités formelles, est importante alors à envisager. Je dis bien la lecture dans la dimension de l'esprit. Et elle fait déboucher sur des prises en compte de dimensions qui impliquent de considérer assemblées celles du temps et de l'espace dans une sorte de même conjonction. C'est ce que j'ai tenu à démontrer ou à évoquer concernant ma façon de penser le nom comme catégorie, comme formateur d'image et comme source de messages ou messagers dans l'esprit.